plus profond des ondes. Histoire mystérieuse et extraordinaire, nouvelles et fictions imaginaires, enquête sur d'étranges affaires. Salut les gringos, bisous les conchitas, voici notre programme. Une histoire bizarre de Roald Dahl qui se passe à bord d'un bateau et qui s'intitule tout simplement Plouf. Puis de Guy de Maupassant, un conte au fil de l'eau, Mouche, ou le souvenir d'un canotier. Petite histoire de Roald Dahl, Plouf. Au matin du troisième jour, la calmie survint. Même les passagers les plus délicats, ceux qui n'avaient pas été vus à bord depuis l'embarquement, quittèrent leur cabine pour gagner le pont. Là, le steward, après avoir mis à leur disposition des chaises longues et des couvertures, les abandonna au pâle rayon du soleil de janvier. Le temps avait été plutôt houleux durant les deux premiers jours de la traversée, et cette embellie inattendue créa une atmosphère plus joyeuse sur tout le bateau. Et, à la tombée de la nuit, les passagers ayant derrière eux 12 heures de beau temps envahirent plein de confiance la grande salle. À 8 heures, le restaurant était plein de dîneurs complaisants et heureux de leur appétit de vrais loups de mer. Vers le milieu du repas, les passagers furent projetés les uns contre les autres par une légère secousse indiquant que le bateau roulait de nouveau. Ce furent au départ des mouvements presque négligeables, des balancements indolents, mais cela suffit pour que changeât aussitôt l'ambiance de la salle. Certains passagers levèrent des yeux inquiets, puis attendirent et écoutèrent avec une appréhension visible. D'autres demeurèrent impassibles, voire primesautiers. Parmi les primesautiers, certains laissèrent entendre des mots drôles au sujet de la nourriture et du mauvais temps afin de torturer ceux qui commençaient à se trouver mal. Le roulis ne tarda pas à se faire plus violent. Quelques minutes à peine, après que la première secousse avait été signalée, le navire basculait lourdement de tribord à bâbord, de bâbord à tribord, tandis que les passagers se cramponnaient à leur fauteuil comme dans les virages en voiture. Puis ce fut la vraie tempête, et M. Bottibol, qui était assis à la table du commissaire, vit le turbot poché à la sauce hollandaise échapper soudain à sa fourchette. L'agitation fut générale, tout le monde tenta de saisir au vol son assiette ou son verre de vin. Mrs. Renshaw, qui trônait à la droite du commissaire, poussa un cri aigu et empoigna le bras de son voisin. « Voilà une sale nuit qui s'annonce », dit le commissaire à l'adresse de Mrs. Renshaw. Il y avait dans sa voix un brin de délectation mal dissimulé. Le steward accourut et aspergea d'eau ce qui restait de nappe entre les couverts. L'agitation subsista, mais la plupart des passagers continuaient de manger. Quelques-uns seulement, dont Mrs. Renshaw, se levèrent péniblement pour se frayer un chemin vers la sortie entre les tables. « Tenez, dit le commissaire, la voilà qui se sauve. » Puis il jeta un regard approbateur sur le restant de son troupeau qui persévérait, complaisant, fier d'avoir le pied marin. Au moment du café, M. Bottibol, qui avait été inhabituellement grave et pensif dès le premier coup de roulis, se leva brusquement et porta sa tasse à la place que Mrs. Renshaw avait laissée vacante. Il s'assit et se pencha aussitôt vers le commissaire pour lui parler à l'oreille. « Excusez-moi, dit-il. » Vous pourriez peut-être me renseigner. » Le commissaire, un petit homme gras et rouge, tourna la tête. « Que puis-je faire pour vous, Monsieur Bottibol ?»« Voilà ce que j'aimerais savoir. » Le visage que le commissaire avait devant lui était anxieux. « J'aimerais savoir si le capitaine a déjà fait son évaluation pour l'enchère de ce soir. Je veux dire, a-t-il pu la faire avant la tempête ?» Le commissaire, qui avait cru recevoir des confidences d'ordre personnel, sourit, puis s'adossa pour mettre à l'aise son ventre trop plein. « Oui, certainement, répondit-il. » Il n'avait pas eu l'intention de baisser la voix, mais il le fit automatiquement, car la question avait été posée à voix basse. « À quel moment l'a-t-il faite, qu'en pensez-vous ?»«
Cet après-midi, sans doute. Il l'a fait toujours dans l'après-midi. »
« Vers quelle heure ?»«
Oh, ça je n'en sais rien, vers 4 heures peut-être. »«
Maintenant j'aimerais savoir autre chose. Comment fait-il pour déterminer le nombre ? Est-ce très compliqué ?»
Le commissaire regarda les sourcils inquiets de M. Botibol et sourit, car il savait très bien où ce dernier voulait en venir.
« Eh bien, voyez-vous, le capitaine a un petit entretien avec l'officier de marine. Ils examinent les conditions atmosphériques, ils discutent un peu, puis ils font leur évaluation. »
M. Botibol hocha la tête, puis demeura pensif un instant. Enfin, il dit, « Le capitaine pouvait-il savoir qu'il ferait mauvais ce soir ?»«
Qu'en pensez-vous ? »
Je ne peux pas vous le dire, répondit le commissaire en regardant l'autre tout droit dans les yeux qui étaient petits, noirs et fébriles.
« Je ne peux vraiment pas vous le dire, Monsieur Botibol. Je n'en sais absolument rien. »
« Si le temps se gâte encore, ne vaudra-t-il pas mieux acheter un numéro plus bas ?
Qu'en passez-vous ? »
Le chuchotement était plus pressant, plus anxieux à présent.
« Peut-être bien, répondit le commissaire, mais je doute que le vieux ait tenu compte d'une nuit vraiment houleuse. La mer était belle cet après-midi au moment de l'évaluation. »
Autour d'eux, tout le monde se taisait. Tout le monde regardait attentivement le commissaire, avide d'entendre ce qu'il disait. Il n'y avait là que des lèvres entrouvertes, des sourcils arqués, des têtes penchées, en avant, légèrement en biais. Des visages tendus, mi-hypnotisés, qui guettent une nouvelle directement de la bouche du cheval.
« Maintenant, supposons que vous voulez acheter un numéro. Lequel prendriez-vous aujourd'hui ?» chuchota M. Botibol.
« Je ne connais pas encore l'étendue, » répondit patiemment le commissaire. « Il annonce au début des enchères après le dîner.
Je ne suis pas très qualifié, vous savez, je ne suis que le commissaire. »
Sur ce, M. Botibol se leva et s'excusa. Puis il partit d'une démarche mal assurée, sur le sol mouvant entre les tables.
À deux reprises, il dut s'accrocher au dossier d'une chaise pour ne pas tomber.
« Le pont, s'il vous plaît, dit-il à l'homme qui maniait l'ascenseur.
Le vent le gifla en pleine figure lorsqu'il accéda au pont découvert. Il chancela et dut empoigner la barre d'appui pour rester debout. Il contempla la mer assombrie où roulaient des vagues gigantesques chevauchées d'écume suivies de longs panaches d'embrun.
« Quel sale temps, pas vrai, monsieur ?» dit l'homme de l'ascenseur.
Monsieur Botibol sortit un petit peigne rouge et mit de l'ordre dans ses cheveux. « Allons-nous moins vite en raison du mauvais temps » demanda-t-il.
« Oh, ma foi, oui, monsieur. Nous avons déjà considérablement ralenti depuis le départ.
Il faut toujours ralentir par un temps pareil. Sans cela, il y aurait sûrement des victimes. »
Au fumoir, en bas, tout le monde attendait l'enchère. Les gens étaient groupés autour des petites tables. Les hommes un peu guindés dans leurs jaquettes, un peu trop roses aussi, et trop bien rasés à côté de leurs compagnes glacées aux bras blancs.
Monsieur Botibol s'assit sur une chaise proche de la table du commissaire priseur. Il croisa les jambes, plia les bras, bref. Il avait l'air d'un homme qui vient de prendre une décision capitale et qui ne reculera devant rien.
Le fonds, se dit-il, vaudra 7 000 $ environ. C'était sa valeur depuis quelques jours. Les numéros s'étaient vendus entre 300 et 400 chacun. Comme le navire était britannique, on payait en livres, mais lui préférait compter en dollars.
7 000 $, c'était une jolie somme.
Mon Dieu, oui. Il se ferait payer un billet de 100 $ qu'il mettrait ensuite dans la poche intérieure de sa jaquette. Pas de problème de ce côté.
Puis, sans attendre, mais oui, sans attendre, il achèterait une Lincoln convertible. Il la ferait charger en chemin et il la conduirait lui-même à la maison pour le seul plaisir de voir la tête que ferait Ethel en le voyant arriver dans sa Lincoln vert pâle et flambant neuve.
« Bonjour poupée, » dira-t-il d'une voix désinvolte, « voici un petit cadeau pour toi.
J'ai voulu te faire une surprise, elle te plaît ? Tu aimes la couleur ?»
Et puis il verrait l'effet de son visage.
Le commissaire-priseur était debout derrière sa table.
« Mesdames, messieurs, cria-t-il, le capitaine a évalué à 515 000 le parcours du jour qui finira demain à midi. Comme de coutume, nous allons prendre 10 numéros de chaque côté pour établir la série. Cela fera 505 sur 525. Et naturellement, pour ceux qui pensent que le bon résultat est encore plus loin, les billets série haute et les billets série basse seront vendus séparément. Maintenant, nous allons procéder au tirage du premier numéro. Le voici. C'est le 512. L'assistance devint silencieuse. Les gens, immobiles sur leurs chaises, avaient les yeux fixés sur le commissaire-priseur. L'atmosphère était tendue et la tension montait à mesure que s'élevaient les chiffres. Ce n'était ni un jeu ni une plaisanterie. On n'avait qu'à voir de quelle façon se regardaient les adversaires. Certes, ils souriaient, mais du bout des lèvres seulement. Leur regard demeurait aigu et glacé. Le prix de 512 fut fixé à 110 livres. On ne s'écarta que très peu de cette somme pour les 3 ou 4 numéros suivants. Le bateau, pendant ce temps, se déhanchait follement et chaque fois qu'il se soulevait, les boiseries des murs craquaient comme si elles allaient se fendre. Les passagers cramponnés à leur fauteuil n'avaient d'oreilles que pour l'enchère. « Série basse !» cria le commissaire-priseur. Monsieur Boutibol demeurait figé. Il avait décidé d'attendre que les autres aient fait leur offre, puis il se précipiterait pour être le dernier. Il pensait avoir au moins 500 $ en banque, peut-être même 600, ce qui représenterait un peu plus de 200 livres. Le ticket ne coûterait pas trop cher. Comme nous le savons tous, poursuivit le commissaire-priseur, la série basse couvre tous les numéros au-dessous du plus petit nombre. Donc en l'occurrence, chaque numéro plus bas que le 505, si vous estimez que le navire aura couvert moins de 505 000 dans les 24 heures qui s'achèvent demain à midi, vous avez intérêt à acheter un numéro série basse, et maintenant au plus offrant. Cela monta directement à 130 livres. Monsieur Boutibol n'était évidemment pas le seul à avoir remarqué que le temps s'était gâté. 140, 50. Là, il y eut un arrêt. Le commissaire-priseur leva son marteau. 150, 60, cria Monsieur Boutibol, et toutes les têtes se tournèrent vers lui. 70, 80, cria Monsieur Boutibol. 90, 200, cria Monsieur Boutibol. Plus rien au monde ne l'arrêterait. Il y eut un silence. Pas d'offre de plus de 200 livres ? Du calme, se dit-il, ne bouge pas. Ne lève pas les yeux, ça porte malheur. Ne respire plus. Tant que tu ne respires pas, personne ne n'offrira rien. Vu et entendu, sur le crâne rose du commissaire-priseur étincelaient des gouttes de sueur. Personne ne dit mot. Monsieur Boutibol étouffait doucement. J'adjuge, adjugé. Et le coup de marteau retentit. Monsieur Boutibol sortit son chèque et le tendit à l'assistant du commissaire-priseur, puis il se rassit pour attendre la fin de l'enchère. Après la vente du dernier numéro, la valeur du fonds fut établie. Cela donna 2100 livres d'appoint, soit environ 6 000 $. 90% allait au gagnant, le reste au marin retraité. Il toucherait donc 5 400 $. Oui, c'était suffisant. Il pourrait acheter la ligne convertible. Il lui resterait même un peu d'argent. Illuminé d'espoir, il regagna sa cabine. Le lendemain, au réveil, M. Boutibol demeura immobile quelques instants. Les yeux clos, il écouta la tonalité du vent en entendant le roulis. Il n'y eut pas de vent, il n'y eut pas de roulis non plus. Alors il sauta hors du lit et jeta un regard par le hublot. La mer, ô doux Jésus, était plate comme un miroir, et le navire file à toute vitesse, manifestement dans le but de rattraper le temps perdu. Monsieur Boutibol tourna le dos à la fenêtre et se laissa retomber sur sa couchette. Un petit courant électrique parcourut la paroi de son estomac. Plus d'espoir, un numéro de la série haute gagnerait à coup sûr. « Oh mon Dieu, dit-il tout haut, que vais-je faire maintenant ?» Car, à présent, il n'avait plus la moindre chance. À moins que ce damné bateau ne fît marche arrière. Oui, c'était bien cela. Ne pourrait-il pas demander au capitaine de lui rendre ce service ? Lui offrir 10% de ses gains ? Lui offrir davantage s'il le fallait ? Monsieur Boutibol se mit à ricaner doucement. Mais soudain, il s'arrêta net, sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent, car tout à coup, une idée lui était venue. Ce fut comme la foudre. Il sauta à terre, courut au hublot et regarda une nouvelle fois la mer. « Eh bien, pensa-t-il, pourquoi pas ?»« Pourquoi pas, en effet ?» La mer était calme et il surnagerait sans peine en attendant d'être repêché. Quelqu'un, lui semblait-il, avait déjà dû agir de la sorte, mais ce fait ne l'empêcherait pas de tenter sa chance à son tour. Le bateau serait obligé de faire halte et de lui envoyer le canot de sauvetage. Et le canot devrait remonter loin en arrière pour l'embarquer, puis le ramener au bateau et le hisser à bord. Toute cette procédure prendrait une heure au moins. Une heure correspondait à 30 milles. Cela enlèverait 30 milles au parcours de la journée. Ce serait la victoire de la série basse, à condition de trouver quelqu'un pour le voir tomber. Mais cela serait simple à arranger. Il mettrait des vêtements légers pour pouvoir nager facilement. Il se mettrait en tenue de tennis. Une chemisette, un short, des chaussons. Pas une minute à perdre. Quelle heure était-il ? 9h15, mais tant mieux. Il fallait agir vite, le plus vite possible, puisque le temps limite était midi. Craintif et agité à la fois, tout de blanc vêtu, il gagna le pont promenade. Son petit corps aux hanches larges et aux épaules étroites faisait irrésistiblement penser à une borne kilométrique. Ses jambes trop blanches étaient couvertes de poils noirs. Il s'engagea sur le pont d'un pas hésitant et feutré. Puis il regarda nerveusement autour de lui. Une seule personne était visible, une dame d'âge mûr, aux chevilles épaisses, à la croupe énorme, se penchait sur la rambarde en regardant fixement la mer. Comme le col de son manteau d'astrakhan était relevé, M. Bottibol ne put voir son visage. Il s'arrêta pour examiner la femme à distance. « Oui, se dit-il, elle fera probablement quelque chose. Elle alertera le personnel plus rapidement que quiconque. » Mais attention, William Bottibol, attention, souviens-toi de ce que tu te disais il y a quelques minutes dans ta cabine, t'en souviens-tu ? Sauter d'un paquebot en marche, en plein océan, à 1000 miles de la côte la plus proche, ce n'était pas n'importe quoi pour un homme habituellement aussi prudent que M. Bottibol. C'est pourquoi il tenait à être absolument certain de l'intervention de cette femme. À son avis, elle pourrait ne pas intervenir, et cela pour deux raisons différentes. Premièrement, elle pourrait être sourde ou aveugle. Ce n'était pas très probable, mais il fallait y avoir pensé. Il n'avait qu'à lui dire quelques mots pour vérifier. Deuxièmement, et ceci vous prouvera à quel point un homme guidé par la peur et par l'instinct de conservation peut devenir soupçonneux, cette femme pourrait être la propriétaire de numéro de la série haute, et comme telle, elle aurait intérêt à ne pas faire stopper le bateau. Il y avait bien des gens capables d'assassiner leur prochain pour moins de 6 000 $. Monsieur Bottibol le savait bien, les journaux en parlaient sans cesse. Alors pourquoi laisser les choses au hasard ? Il ne serait pas inutile de prendre des précautions. Une petite conversation polie le renseignerait. Puis, sûr de pouvoir compter sur l'âme secourable de la grosse dame, il plongerait le cœur léger. Donc, monsieur Bottibol s'accouda à la rambarde à côté de la dame. « Bonjour, » dit-il d'une voix enjouée. « Bonjour, » répondit-elle aussitôt en tournant vers lui un sourire étonnamment doux, presque beau, bien que son visage, lui, fût plutôt laid. « Voilà la réponse à ma première question, » se dit monsieur Bottibol. « Elle n'est ni sourde ni aveugle. « Dites-moi, madame, » fit-il en allant droit au but, « que pensez-vous de l'enchère d'hier soir ?» Elle fronça les sourcils. « L'enchère ? Quelle enchère ? Vous savez bien le jeu que l'on joue tous les soirs. On vend des billets et on joue à qui trouve la vitesse du jour. Vous voyez bien ce que je veux dire ?» Elle secoua la tête et sourit de nouveau. Son sourire était indulgent et paisible. « Je suis très paresseuse, » dit-elle. « Je me couche toujours très tôt et je dîne au lit. » C'est si reposant de dîner au lit. Monsieur Bottibol sourit à son tour et commença à reculer. « C'est le moment de faire ma gymnastique, » dit-il, « ma gymnastique du matin. Très heureux d'avoir fait votre connaissance. » Il recula encore et la dame le laissa partir sans même le regarder. À présent, tout était en règle. La mer était calme, il était vêtu pour la circonstance, il n'y avait certainement pas de requin dans cette partie de l'océan. Et cette charmante vieille dame était là pour le sauver. Restait à savoir si l'arrêt du bateau serait assez long pour faire pencher la balance en sa faveur. Oui, c'était presque certain. De toute manière, il pourrait y contribuer un peu. Il pourrait rendre le sauvetage un peu plus difficile en nageant subrepticement au large au moment où il tenterait de l'approcher pour le repêcher. Une minute de plus, une seconde de plus l'aiderait peut-être à gagner. Il s'avança vers la barre et alors une nouvelle crainte l'assaillit. Ne risquait-il pas de s'accrocher au propulseur ? Cela était bien arrivé à quelqu'un, il en avait entendu parler. Seulement, comme il avait l'intention de plonger au lieu de se laisser tomber, il se dirigea le plus loin possible pour éviter cet accident. À 20 mètres de la grosse dame, M. Boutibol s'arrêta. Elle ne le regardait pas. Tant mieux. Il n'aimerait pas qu'elle le vît plonger. Cela lui permettrait de raconter ensuite qu'il avait glissé et qu'il était tombé accidentellement. Il inspecta le flanc du bateau. Il lui parut vertigineux. La chute serait longue, longue. C'est dangereux, un plongeon maladroit. On peut se faire mal. On peut même s'ouvrir l'estomac. Il avait entendu parler de cela aussi. Il fallait sauter les pieds les premiers. Entrer dans la flotte comme un couteau. Oui, monsieur. L'eau lui paraissait glaciale, profonde et grise. À sa seule vue, il frissonna. Mais c'était maintenant ou jamais. Sois un homme, William Boutibol, c'est bien le moment, vas-y maintenant. Il grimpa sur la large barre de bois pour s'y tenir en équilibre durant 3 terrifiantes secondes. Puis il s'élança aussi loin qu'il pouvait en criant « Au secours ! Au secours ! Au secours !» répéta-t-il en tombant. Puis il toucha l'eau et coula. Au moment du premier cri, la dame aux chevilles épaisses eut un léger sursaut. Elle jeta un regard autour d'elle et aperçut le petit homme en tenue de tennis qui s'envolait à tire-d'aile en poussant des cris. D'abord, elle eut l'air de se demander ce qu'il fallait faire. Lui lancer une bouée, avertir quelqu'un ou simplement le laisser hurler. Elle fit un pas en arrière et demeura immobile, tendue, indécise. Puis elle se détendit un peu. Par-dessus la barre, elle fouilla du regard l'eau tumultueuse du sillage. Bientôt apparut dans la blacheur de l'écume une minuscule tête noirâtre. Un bras émergea ensuite, une fois, deux fois, ramant vigoureusement. Une petite voix lointaine laissa entendre des appels inarticulés. La dame qui venait de retrouver son poste de tout à l'heure s'efforçait de ne pas perdre des yeux la petite tache noire ballottée par les eaux. Mais au bout de quelques secondes, cette tache était si loin, que la dame n'était plus sûre du tout de l'avoir vraiment aperçue. Peu après, une autre femme surgit. Elle était sèche et anguleuse, elle portait des lunettes d'écaille. Ayant détecté la grosse dame, elle s'apprêta à la rejoindre et traversa le pont de son pas résolu et martial de vieille demoiselle. « Ainsi vous voilà, » dit-elle. La dame aux chevilles épaisses se retourna et la regarda sans rien dire. « Je vous ai cherché partout, » reprit l'anguleuse. « Un homme vient de plonger dans la mer, un homme tout habillé. »« Vous rêvez ?»« Mais non, il a dit qu'il allait faire sa culture physique, et puis il a plongé sans même avoir ôté ses vêtements. » « Vous feriez mieux de descendre avec moi, » dit l'osseuse. Son visage était devenu plus dur, sa voix plus autoritaire. « Et que je ne vous vois plus déambuler seul sur le pont. Vous savez bien que vous n'avez pas le droit de me quitter. »« Oui, Maggie, » répondit la femme aux chevilles épaisses. Elle sourit de nouveau. Son sourire était suave et confiant. Elle prit la main de l'autre et se laissa amener. « Quel homme charmant, » dit-elle rêveusement. « Il m'a fait signe. »
People down there,
Petite pause musicale, vous êtes bien sur CFM 90.2 au plus profond des ondes. Poursuivons notre lecture, aujourd'hui c'est plutôt littérature. Et voici donc une nouvelle de Guy de Maupassant, un conte au fil de l'eau, qui s'intitule « Mouche » ou « Le souvenir d'un canotier ». Oui, aujourd'hui on fait un petit peu maritime. Le canotier nous dit « En ai-je vu de drôles de choses, de drôles de filles, au jour passé où je canotais ?» Que de fois j'ai eu envie d'écrire un petit livre titré sur la Seine pour raconter cette vie de force et d'insouciance, de gaieté, de pauvreté, de fêtes robustes et tapageuses que j'ai menées de 20 à 30 ans. J'étais un employé sans le sou. Maintenant je suis un homme arrivé qui peut jeter des grosses sommes pour un caprice d'une seconde. J'avais au cœur mille désirs modestes et irréalisables qui me doraient l'existence de toutes les attentes imaginaires. Aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quelle fantaisie me pourrait faire lever du fauteuil où je somnole. Comme c'était simple et bon, et difficile de vivre ainsi, entre le bureau à Paris et la rivière à Argenteuil. Ma grande, ma seule, mon absorbante passion pendant 10 ans, ce fut la Seine. Ah, la belle, calme, variée, et puante rivière pleine de mirages et d'immondices. Je l'ai tant aimée. Je crois parce qu'elle m'a donné, me semble-t-il, le sens de la vie. Ah, les promenades le long des berges fleuries, mes amis les grenouilles qui rêvaient, le vent trop frais, sur une feuille de nénuphar, et les lys d'eau coquets et frêles, au milieu des grandes herbes fines qui m'ouvraient soudain, derrière un sol, un feuillet d'album japonais, quand le martin pêcheur fuyait devant moi comme une flamme bleue. Ai-je aimé tout cela d'un amour instinctif, des yeux qui se répandaient dans tout mon corps en une joie naturelle et profonde? Comme d'autres ont des souvenirs de nuits tendres, j'ai des souvenirs de levées de soleil dans les brumes matinales, flottantes, errantes vapeurs blanches comme des mortes avant l'aurore. Puis, au premier rayon glissant sur les prairies, illuminées de roses à ravir le cœur. Et j'ai des souvenirs de lune argentant l'eau frémissante et courante, d'une lueur qui faisait fleurir tous les rêves. Et tout cela, symbole de l'éternelle illusion, naissait pour moi sur de l'eau croupie qui charriait vers la mer toutes les ordures de Paris. Puis, quelle vie gaie avec les camarades! Nous étions 5, une bande, aujourd'hui des hommes graves. Et comme nous étions tous pauvres, nous avions fondé dans une affreuse gargote d'Argenteuil une colonie inexprimable qui ne possédait qu'une chambre dortoir, où j'ai passé les plus folles soirées, certes, de mon existence. Nous n'avions souci de rien que de nous amuser et de ramer, car l'aviron pour nous, sauf pour un, était un culte. Je me rappelle de 6 singulières aventures, de 6 invraisemblables farces inventées par ces 5 chenapans, que personne aujourd'hui ne les pourrait croire. On ne vit plus ainsi, même sur la Seine, car la fantaisie enragée qui nous tenait en haleine est morte dans les âmes actuelles. À nous 5, nous possédions un seul bateau, acheté à grande peine et sur lequel nous avons ri comme nous ne rirons plus jamais. C'est une large yole un peu lourde, mais solide, spacieuse et confortable. Je ne vous ferai point le portrait de mes camarades. Il y en avait un petit, très malin, surnommé Petit Bleu. Un grand, à l'air sauvage, avait des yeux gris, des cheveux noirs, surnommé Tomahawk. Un autre, spirituel et paresseux, surnommé La Toque, le seul qui ne toucha jamais une rame sous prétexte qu'il ferait chavirer le bateau. Un mince, élégant, très soigné, surnommé N'a qu'un œil, un souvenir d'un roman alors récent de Cladel, et parce qu'il portait un monocle. Enfin moi, qu'on avait baptisé Joseph Prunier. Nous vivions en parfaite intelligence avec le seul regret de n'avoir pas une barreuse. Une femme, c'est indispensable dans un canot. Indispensable parce que ça tient l'esprit, le cœur en éveil, parce que ça anime, ça amuse, ça distrait, ça pimente et ça fait décor avec une ombrelle rouge glissant sur les berges vertes. Mais il nous ne fallait pas une barreuse ordinaire. À nous 5, qui ne ressemblions guère à tout le monde. Il nous fallait quelque chose d'imprévu, de drôle, de prêt à tout, de presque introuvable, enfin. Nous en avions essayé beaucoup, sans succès, des filles de bar. Pas des barreuses, canotières imbéciles, qui préféraient toujours le petit vin qui grise à l'eau qui coule et qui porte les yoles. On les gardait un dimanche, puis on les congédiait avec dégoût. Or, voici qu'un samedi soir, n'a qu'un œil, nous amena une petite créature fluette, vive, sautillante, blagueuse et pleine de drôlerie, de cette drôlerie qui tient lieu d'esprit aux titis mâles et femelles éclos sur le pavé de Paris. Elle était gentille, pas jolie, une ébauche de femme où il y avait de tout, une de ces silhouettes que les dessinateurs crayonnent en trois traits sur une nappe de café après dîner, entre un verre d'eau de vie et une cigarette. La nature en fait quelquefois comme ça. Le premier soir, elle nous étonna, nous amusa et nous laissa sans opinion tant elle était inattendue. Tombée dans ce nid d'homme prêt à toutes les folies, elle fut bien vite maîtresse de la situation et dès le lendemain, elle nous avait conquis. Elle était d'ailleurs tout à fait toquée, née avec un verre d'absinthe dans le ventre, que sa mère avait dû boire au moment d'accoucher, et elle ne s'était jamais dégrisée depuis, car sa nourrice, disait-elle, se refaisait le sang à coups de tafia. Et elle-même n'appelait jamais autrement que ma sainte famille toutes les bouteilles alignées derrière le comptoir des marchands de vin. Je ne sais lequel de nous la baptisa Mouche, ni pourquoi ce nom lui fut donné, mais il lui allait bien et il lui resta. Et notre yole, qui s'appelait Feuille à l'envers, fit flotter chaque semaine sur la Seine entre Asnières et Maison Lafitte, Saint-Gas joyeux et robuste, gouverné sous un parasol de papier peint, par une vive et écervelée personne qui nous traitait comme des esclaves chargés de la promener sur l'eau et que nous aimions beaucoup. Nous l'aimions tous beaucoup pour mille raisons d'abord, pour une seule ensuite. Elle était à l'arrière de notre embarcation, une espèce de petit moulin à paroles jacassant au vent qui filait sur l'eau. Elle bavardait sans fin avec le léger bruit continu de ces mécaniques ailées qui tournent dans la brise. Et elle disait, étourdiment, les choses les plus inattendues, les plus cocasses, les plus stupéfiantes. Il y avait dans cet esprit, dont toutes les parties semblaient disparates à la façon de loques de toute nature et de toute couleur, non pas cousues ensemble mais seulement faufilées, il y avait de la fantaisie comme dans un conte de fées, de la gauloiserie, de l'impudeur, de l'impudence, de l'imprévu, du comique et de l'air et du paysage comme dans un voyage en ballon. On lui posait des questions pour provoquer des réponses trouvées, on ne sait où. Celle dont on l'a harcelée le plus souvent était celle-ci. « Et pourquoi t'appelles-t-on Mouche ?» Elle découvrait des raisons tellement invraisemblables que nous cessions de nager pour en rire. Elle nous plaisait aussi comme femme. Et la toque qui ne ramait jamais et qui demeurait tout le long des jours assis à côté d'elle au fauteuil de bar répondit une fois la demande ordinaire. « Pourquoi t'appelles-t-on Mouche ?» « Parce que c'est une petite cantharide. Oui, une petite cantharide bourdonnante et enfiévrante. Non pas la classique cantharide empoisonneuse, brillante et mantelée, mais une petite cantharide aux ailes rousses qui commençait à troubler étrangement l'équipage entier de la feuille à l'envers. » Que de plaisanteries stupides encore sur cette feuille où s'était arrêtée cette mouche. Nakenoï, depuis l'arrivée de Mouche dans le bateau, avait pris au milieu de nous un rôle prépondérant supérieur, le rôle d'un monsieur qui a une femme à côté, de quatre autres qui n'en ont pas. Il abusait de ce privilège au point de nous exaspérer parfois en embrassant Mouche devant nous, en l'essayant sur ses genoux à la fin des repas, et par beaucoup d'autres prérogatives humiliantes autant qu'irritantes. On les avait isolés dans le dortoir par un rideau. Mais je m'aperçus bientôt que mes compagnons et moi devions faire au fond de nos cerveaux de solitaires le même raisonnement. Pourquoi, en vertu de quelle loi d'exception, de quel principe inacceptable, Mouche, qui ne paraissait gênée par aucun préjugé, serait-elle fidèle à son amant, alors que les femmes du meilleur monde ne le sont pas à leur mari? Notre réflexion était juste, nous en fûmes bientôt convaincus. Nous aurions dû seulement la faire plus tôt pour n'avoir pas à regretter le temps perdu. Mouche trompa Nakenoï avec tous les autres matelots de la feuille à l'envers. Elle le trompa sans difficulté, sans résistance, à la première prière de chacun de nous. Mon Dieu, les gens pudiques vont s'indigner beaucoup. Ben pourquoi? Quelle est la courtisane en vogue qui n'a pas une douzaine d'amants et quel est celui de ses amants assez bête pour l'ignorer? La mode n'est-elle pas d'avoir un soir chez une femme célèbre et cotée, comme on a un soir à l'opéra, au français ou à l'odéon, depuis qu'on y joue les demi-classiques? On se met à 10 pour entretenir une cocotte qui fait de son temps une distribution difficile, comme on se met à 10 pour posséder un cheval de course que monte seulement un jockey, véritable image de l'amant de cœur. On laissait par délicatesse Mouche à Nakenoï, du samedi soir au lundi matin. Les jours de navigation étaient à lui. Nous ne le trompions qu'en semaine, à Paris, loin de la Seine, ce qui, pour des canotiers comme nous, n'était presque plus trompé. La situation avait ceci de particulier que les quatre maraudeurs des faveurs de mouche n'ignoraient point ce partage qu'ils en parlaient entre eux, et même avec elle, par allusion voilée qui la faisait beaucoup rire. Seul, Nakeneuil semblait tout ignorer, et cette position spéciale faisait même naître une gêne entre lui et nous, paraissait le mettre à l'écart, l'isoler, lever une barrière à travers notre ancienne confiance et notre ancienne intimité. Cela lui donnait pour nous un rôle difficile, un peu ridicule, un rôle d'amant trompé, presque de mari. Comme il était fort intelligent, doué d'un esprit spécial de pince sans rire, nous nous demandions quelquefois avec une certaine inquiétude s'il ne se doutait de rien. Il eut soin de nous renseigner d'une façon pénible pour nous. On allait déjeuner à Bougival et nous ramions avec vigueur quand la toque, qui avait ce matin-là une allure triomphante, d'homme satisfait, et qui, assis côte à côte avec la barreuse, semblait se serrer contre elle, un peu trop librement à notre avis, arrêta la nage en criant « Stop !» Les huit avirons sortirent de l'eau. Alors, se tournant vers sa voisine, il demanda « Pourquoi t'appelle-t-on mouche ?» Avant qu'elle eût pu répondre, la voix de Nakeneuil, assis à l'avant, articula d'un ton sec « Parce qu'elle se pose sur toutes les charognes !» Il eut d'abord un grand silence, une gêne que suit une envie de rire. Mouche elle-même demeurait interdite. Alors la toque commanda « Avant, partout !» Le bateau se remit en route. L'incident était clos, la lumière faite. Cette petite aventure ne changea rien à nos habitudes. Elle rétablit seulement la cordialité entre Nakeneuil et nous. Il redevint le propriétaire honoré de mouche du samedi soir au lundi matin, sa supériorité sur nous tous ayant été bien établie par cette définition qui clôtura d'ailleurs l'ère des questions sur le mot « mouche ». Nous nous contentâmes à l'avenir du rôle secondaire d'amis reconnaissants et attentionnés qui profitaient discrètement des jours de la semaine sans contestation d'aucune sorte entre nous. Cela marcha très bien pendant 3 mois environ. Mais voilà que tout à coup, mouche prit vis-à-vis de nous tous des attitudes bizarres. Elle était moins gaie, nerveuse, inquiète, presque irritable. On lui demandait sans cesse « Mais qu'est-ce que tu as ?» Elle répondait « Rien, laisse-moi tranquille. » La révélation nous fut faite par Nakeneuil un samedi soir. Nous venions de nous mettre à table dans la petite salle à manger que notre gargotier Barbichon nous réservait dans sa guinguette, et le potage fini, on attendait la friture quand notre ami, qui paraissait aussi soucieux, prit d'abord la main de mouche et ensuite parla. « Mes chers camarades, dit-il, j'ai une communication des plus graves à vous faire et qui va peut-être amener de longues discussions. Nous aurons le temps d'ailleurs de raisonner entre les plats. » Cette pauvre mouche m'a annoncé une désastreuse nouvelle dont elle m'a chargé en même temps de vous faire part. Elle est enceinte. Je n'ajoute que 2 mots. Ce n'est pas le moment de l'abandonner et la recherche de la paternité est interdite. Il y eut d'abord de la stupeur, la sensation d'un désastre, et nous nous regardions les uns les autres avec l'envie d'accuser quelqu'un. Mais lequel ? Ah ! Lequel ? Jamais je n'avais senti comme en ce moment la perfidie de cette cruelle farce de la nature qui ne permet jamais à l'homme de savoir d'une façon certaine s'il est le père de son enfant. Puis peu à peu une espèce de consolation nous vint et nous réconforta, née au contraire d'un sentiment confus de solidarité. Tomahawk, qui ne parlait guère, formula ce début de rassérénement par ces mots. « Ma foi, tant pis, l'union fait la force !» Les goujons entraient apportés par un marmiton. On ne se jetait pas dessus, comme toujours, car on avait tout de même l'esprit troublé. Nakeneuil reprit. Elle a eu en cette circonstance la délicatesse de me faire des aveux complets. Mes amis, nous sommes tous également coupables. Donnons-nous la main et adoptons l'enfant. La décision fut prise à l'unanimité. On leva les bras vers le ciel de poissons frits et on jura. Nous l'adoptons. Alors sauvé tout d'un coup, délivré du poids horrible d'inquiétude qui torturait depuis un mois cette gentille et détraquée pauvresse de l'amour, mouche s'écria « Ah, mes amis, vous êtes de braves cœurs, de braves cœurs, de braves cœurs. Merci tous !» Et elle pleura pour la première fois devant nous. Désormais, on parla de l'enfant dans le bateau comme s'il était déjà né, et chacun de nous s'intéressait avec une sollicitude de participation exagérée au développement lent et régulier de la taille de notre barreuse. On cessait de ramer pour demander « Mouche ?» Elle répondait « Présente. Garçon ou fille ?»« Garçon. Que deviendra-t-il ?» Alors elle donnait essor à son imagination de la façon la plus fantastique. C'était des récits interminables, des inventions stupéfiantes depuis le jour de la naissance jusqu'au triomphe définitif. Il fut tout cet enfant dans le rêve naïf, passionné, attendrissant de cette extraordinaire petite créature qui vivait maintenant chaste entre nous cinq, qu'elle appelait ses cinq papas. Elle le vit, le raconta, marin, découvrant un nouveau monde plus grand que l'Amérique, général rendant à la France l'Alsace et la Lorraine, puis empereur et fondant une dynastie de souverains généreux et sages, qui donnait à notre patrie le bonheur définitif, puis savant dévoilant d'abord le secret de la fabrication de l'or, ensuite celui de la vie éternelle, puis aéronaute inventant le moyen d'aller visiter les astres, et faisant du ciel infini une immense promenade pour les hommes. Réalisation de tous les songes les plus imprévus et les plus magnifiques. Dieu fut-elle gentille et amusante, la pauvre petite, jusqu'à la fin de l'été. Ce fut le 20 septembre que creva son rêve. Nous revenions de déjeuner à Maison Lafitte et nous passions devant Saint-Germain quand elle eut soif et nous demanda de nous arrêter au Pec. Depuis quelque temps, elle devenait lourde et cela l'ennuyait beaucoup. Elle ne pouvait plus gambader comme autrefois, ni bondir du bateau sur la berge, ainsi qu'elle avait coutume de le faire. Elle essayait encore, malgré nos cris et nos efforts. Et 20 fois, sans nos bras tendus pour la saisir, elle serait tombée. Ce jour-là, elle eut l'imprudence de vouloir débarquer avant que le bateau fût arrêté, par une de ces bravades où se tuent parfois les athlètes malades ou fatigués. Juste au moment où nous allions accoster, sans qu'on pût prévoir ou prévenir son mouvement, elle se dressa, prit son élan et essaya de sauter sur le quai. Trop faible, elle ne toucha que du bout du pied le bord de la pierre, glissa, heurta de tout son ventre l'angle aigu, poussa un grand cri et disparut dans l'eau. Nous plongeâmes tous les cinq en même temps pour amener un pauvre être défaillant, pâle comme une morte et qui souffrait déjà d'atroces douleurs. Il fallut la porter bien vite dans l'auberge la plus voisine où un médecin fut appelé. Pendant 10 heures que dura la fausse couche, elle supporta avec un courage d'héroïne d'abominables tortures. Nous nous désolions autour d'elle, enfiévrés d'angoisse et de peur. Puis on la délivra d'un enfant mort, et pendant quelques jours encore, nous eûmes pour sa vie les plus grandes craintes. Le docteur enfin nous dit un matin « Je crois qu'elle est sauvée. Elle est en acier, cette fille. » Et nous entrâmes ensemble dans sa chambre, le cœur radieux. Nakenoï, parlant pour tous, lui dit « Plus de danger, petite mouche. Nous sommes bien contents. » Alors, pour la seconde fois, elle pleura devant nous et les yeux sous une glace de larmes. Elle balbutia « Oh, si vous saviez, quel chagrin, je ne me consolerai jamais. De quoi donc, petite mouche ?»« De l'avoir tuée, car je l'ai tuée. Oh, sans le vouloir, mais quel chagrin !» Elle sanglotait. Nous l'entourions émus, ne sachant quoi lui dire. Elle reprit « Vous l'avez vue, vous ?» Nous répondîmes d'une seule voix « Oui. » C'était un garçon, n'est-ce pas? Oui. Beau, n'est-ce pas? On hésita beaucoup. Petit Bleu, le moins scrupuleux, se décida à affirmer « Très beau ». Il eut tort, car elle se mit à gémir, presque à hurler de désespoir. Alors Nakenoï, qu'il aimait peut-être le plus, eut pour la calmer une invention géniale, et baissant ses yeux ternis par les pleurs, « Console-toi, petite mouche, console-toi, nous t'en ferons un autre ». Le sens comique qu'elle avait dans les moelles se réveilla tout à coup, et à moitié convaincue, à moitié gouailleuse, toute larmoyante encore et le cœur crispé de peine, elle demanda en nous regardant tous « Bien vrai ?» Et nous répondîmes ensemble « Bien vrai !» Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.
up feeling like I've aged a year. Cause I go to sleep in fear of the dawn. Head full of dreams, unclear. Make the days seem twice as long. Just don't know how to say goodbye to you. Pass by where we used to go. Where I now go alone. Everything we here to face on my own. I don't know how to say goodbye to you. I just don't know how to say goodbye to you. After all, don't know how to say goodbye.
Deny. I'm sure.